Eh bien, bonjour les serviteurs de Dieu qui sont prêts à mettre leur vie de côté pour les 49 prochains jours pour servir le Seigneur. Ces gens-là seront très, très bénis dans l'éternité. Le Seigneur fait des grandes promesses. Ils disent, si tu veux marcher pour moi dans la moisson, je me souviendrai de toi de l'autre côté. Puis tu sais, la parabole des mines, ça nous dit que dans le fond, il veut nous envoyer dans la moisson, mais il veut nous les donner après, tu sais. Il veut nous donner les. Il veut qu'on parte avec notre gerbe de blé, puis il veut qu'on on en profite. Fait que si vous voulez, on va prier, on va mettre ça au Seigneur, puis on va commencer l'enseignement pour les serviteurs de la fin. On va appeler ça comme ça, les serviteurs de l'arrière-saison. Ben, Père Céleste, je veux dire merci pour toutes les provisions que tu nous donnes. Présentement, c'est vraiment béni. Je veux dire merci, Seigneur, du privilège que j'ai de pouvoir étudier ta parole. Et je me sens très béni par ton Saint-Esprit. J'ai jamais été autant béni que ça. Puis je veux te dire merci pour ça, pour que tu me révèles ces choses. Je me sens très honoré de ça. Et puis, oui, Seigneur, je te dis oui, certainement, ça fait déjà quelques jours que je fais ça à plein temps. Depuis la mi-mars à peu près, que je suis toujours dans la parole. Ça me bénit énormément, Seigneur, tu m'as béni énormément. C'est sûr que j'ai des petites choses chaque côté là, qui arrivent, mais je te fais confiance pour le reste. Puis je t'ai donné tout mon temps pour les 49 prochains jours à partir du 2 avril pour aller travailler dans la moisson de l'arrière-saison. Dans le nom de ton Fils Jésus que je prie, Seigneur. Amen. Alors, les enseignements. On va commencer par parler des gouvernements humains, parce que ça, c'est un peu ce que j'ai expérimenté avec mon entourage, là, c'est que les croyants aujourd'hui dans les églises, ben, le Seigneur, il nous montre une image de ça dans Juges 7, hein, avec les serviteurs de Gédéon. Ils sont 32 000 quand ils arrivent, puis le Seigneur, il dit, demande à ceux qui ont peur. Ça fait que, il y en a 22 000 qui sont partis. Ceux qui ont peur, c'est vraiment ceux qui sont pas prêts à se lever pour le Seigneur. Ils n'aiment pas parler le Seigneur parce que tout le monde rit d'eux autres. Puis ça lui fait peur de parler pour le Seigneur parce que personne ne reçoit les choses. Donc, c'est sûr qu'ils ont peur. Ils ont peur de parler. Les autres, il en restait 10 000. Fait que le Seigneur, il les a descendus au point d'eau. Puis il dit à Gédéon, il dit, garde, tu prendras ceux que je vais te dire. Ça veut dire que c'est pas nécessairement moi qui vais choisir les gens qui vont travailler avec moi. Mais c'est le Seigneur qui va me les envoyer. Alors, moi, je peux me reposer là-dedans parce que le Seigneur, il connaît les gens qui ont souvenez de la. On va voir ça, là. Je pense dans Juges 7. T'sais, le Seigneur, il dit, prends ceux qui boivent debout. Ça voulait dire, prends ceux qui ont resté vigilants pour moi. Même s'ils sont dans des églises, même s'ils sont dans des gouvernements humains, ils ont gardé leur relation personnelle avec moi. Ils ne se sont pas agenouillés devant un gouvernement humain ou une pastorale ou peu importe, appelez ça comme vous voulez. Alors, la gouvernance humaine, là, si l'Église rejette un serviteur parce qu'il vient d'un instrument ordinaire ou proche d'elle, ben l'Église rate une visitation divine. Comme mentionné dans Juges 7, la plupart des serviteurs sont à genoux devant la gouvernance humaine, ce qui représente l'Église aujourd'hui. Les chrétiens sont à genoux devant le dirigeant pastoral qui, dans la plupart des cas, se réserve le droit de parole exclusif concernant la parole de Dieu en prêchant sur l'autorité, sur l'ordre dans l'Église. Certains, vous avez déjà entendu ça. Ça vous dit quelque chose. Alors, c'est un peu dommage, tu sais, mais il y a quand même quelques chrétiens qui ont resté vigilants, mais la parole nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mettons, dans toutes les églises aujourd'hui, là, parce que Gédéon, c'est des serviteurs, là. Tu sais, c'est tous des serviteurs, c'est l'armée de Gédéon, là. Fait que ça représente les gens dans l'église aujourd'hui. Ceux qui ont gardé leur relation avec le Seigneur, là, c'est 1 sur 100, là. Donc, on voit que ça va s'en venir une denrée rare parce que, de toute façon, si quelqu'un commence à vouloir affirmer la conviction de son Saint-Esprit, souvent, il va être. Si l'Esprit se révèle trop à un croyant, là, le croyant il va être immédiatement repéré, puis il va être neutralisé. Puis ils peuvent même vous traiter de loup, là. Moi, j'ai vu ça. Alors, faut faire attention. Il se réserve le droit exclusif de l'interprétation de la parole. Le Saint-Esprit du croyant est ainsi attristé et reste en silence, le serviteur à genoux de Gédéon. Ce qui produit en général des croyants qui sont croyants seulement à l'Église, parce que le Saint-Esprit est éteint. Dans leur vie de tous les jours, aucune différence avec le monde. Ils vivent avec le monde et ils s'y trouvent très bien. Alors, ils sont convaincus qu'ils sont dans le bon chemin parce qu'ils suivent l'ordre pastoral et qu'ils vont à l'église une ou deux fois par semaine, mais ils témoignent jamais à leurs proches, leur fréquentation. Bref, ils ne sont pas le sel et la lumière dans le monde. Ils sont endormis et éteints, mais ils sont convaincus qu'ils sont au bon endroit parce qu'ils suivent les gouvernements humains. Dans le cas d'un croyant qui persévère à vouloir garder sa relation avec Dieu, il sera mis de côté, expulsé de l'église. On insistera les autres chrétiens à ne pas l'écouter, à couper les ponts avec lui. Il deviendra quelqu'un de rebelle à l'autorité et une personne non enseignable qui s'envoie elle-même. Voilà comment l'ennemi neutralise les croyants dans l'Église. Le croyant d'Église devient sec spirituellement, mais ils suivent toutes les cours bibliques que ça prend selon leurs enseignants pour devenir un bon croyant d'Église. Donc, ils sont donc dans les œuvres de la chair, les œuvres du bois. Un système de cours biblique avec lequel ils monnaient la parole de Dieu. Aux yeux de leurs dirigeants, leur valeur sera donc dans le nombre de certificats obtenus par leurs œuvres et non par leur relation personnelle avec Dieu. Dans le livre Apocalypse 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. » Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Je me tiens à la porte, puis je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire que je suis pas dedans. Ça veut dire que dans les églises de la fin, le Seigneur, il s'est fait sortir par les programmes humains, par les gouvernements humains. Mais il dit, je suis disponible. Si quelqu'un veut venir me voir, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, on constate que Jésus n'est plus dans l'église, mais qu'il demeure toujours disponible à la porte. On va voir là, dans ce verset-là. Je souperai avec lui, lui avec moi. Vous allez voir que dans Ruth, on va étudier Ruth tantôt, vous allez voir que Ruth, elle mangeait du grain rôti, hein, avec Boaz. Y en a-tu que ça allume une lumière un petit peu, ça? Bon. Alors, Dieu cherche un serviteur qui boit l'eau debout. Ce serviteur a toujours gardé sa relation personnelle avec Dieu, peu importe son environnement. Il reste vigilant. Il n'acceptera jamais de se faire dominer par l'homme. Mais il en paiera le prix dans l'Église d'aujourd'hui et dans son entourage. Mais Dieu est fidèle, il voit son enfant puis il va le bénir. Ceux-là sont des serviteurs et Dieu va les utiliser dans son plan pour sa gloire. L'image dans Juges 7 nous montre que le serviteur accepte volontairement de briser son vase de terre pour que l'effusion du Saint-Esprit se manifeste et que le serviteur se mette à sonner de la trompette de Dieu. C'est-à-dire à parler pour Dieu, pardon, j'ai comme des petits... Alors, autrement dit, il devient un instrument dans la main toute puissante de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu que Dieu utilisera dans son plan parfait pour la moisson de l'arrière-saison. Si tu lis ce document et que tu écoutes ce fichier audio, c'est que tu as été choisi pour la moisson de l'arrière-saison. C'est un très, très grand privilège que Dieu te fait. Parce que, comme tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Et nous autres, c'est un privilège qu'on a de pouvoir être, que Dieu nous offre. Tu veux-tu marcher pour moi? Tu sais, il n'y a pas ça à tout le monde, là. Il y a ça juste à ses enfants qui sait qu'il aime le Seigneur. Fait que, il sait de qui qu'il aime. Puis, il sait quel de ses enfants l'aime vraiment et qu'il est prêt à le servir, tu sais. Donc, Dieu nous fait un grand privilège d'être utilisé, puis on sait que la Bible dit qu'il va avoir des couronnes avec ça. Pour celui qui persévérera jusqu'à la fin, alors je vous encourage, c'est sûr que ça sera, je vous dis pas que ça va être une partie de plaisir, hein. Mais c'est 49 jours, les amis, 49 jours de notre vie que Dieu nous demande, puis avec des bénédictions éternelles, incroyables. Je vous le dis, là, si vous verriez les bénédictions, vous n'auriez pas de difficulté à vous décider du tout, du tout, du tout. Par contre, il y a un brisement qu'il faut qu'il se fasse. Si le brisement se fait pas, ben, Dieu pourra pas manifester son Saint-Esprit à travers nous. Alors, pour les serviteurs, bon, des serviteurs là, qui vont être greffés avec moi dans le ministère que Dieu m'a donné. Mais le serviteur, lui, il va être utilisé par Dieu. Puis on sait que ça va être la même chose que dans l'Église primitive, là. Dieu va nous envoyer, puis il va nous bénir énormément, puis les malades vont être guéris, puis les démons vont être chassés, là. Pareil comme dans l'Église primitive. Mais il faut que la personne soit brisée, puis il faut qu'elle ait accepté de donner ces 49 jours-là au Seigneur, à 100% du matin jusqu'au soir, que la Bible dit dans Ruth. Alors, si les serviteurs que Dieu m'amène, je ne sais pas d'où ils viennent, puis probablement qu'ils viennent pas d'une église, parce que là, ceux qui étaient autour de moi ont toutes parti, ont toutes répondu non. Puis là, le Seigneur m'a mis à cœur une personne que j'ai contactée, puis que je sais qu'elle va pas dans l'église, mais je sais que cette personne-là a un bon cœur. Et puis elle est venue très forte dans mon cœur quand que je parlais au Seigneur. J'ai dit là, veux-tu que j'appelle quelqu'un? Fait que cette personne-là m'est venue à... J'ai pensé à d'autres personnes, mais j'ai pas le moyen de les contacter. Fait que j'ai dit, Seigneur, envoie-moi-le, puis ça va être correct, t'sais. Donc, les serviteurs qui vont pas dans les églises, qui ont pas eu trop d'enseignement, on a un site web qui s'appelle lerois-des-rois.com. Il y a la lettre d'amour du Père sur la page couverture, et il y a le plan du salut. Quand vous lisez, là, l'avez-vous déjà rencontré? Mais ça peut vous servir quand les gens vont se convertir, que vous allez marcher là pour le Seigneur. Il y a des gens qui vont se convertir parce que vous allez faire des miracles. Le Seigneur va vous utiliser. Vous allez voir, on va voir ça là très précisément. Comment est-ce qu'il faut faire ça? On va suivre exactement le modèle que la Bible nous donne. Donc oui, le Seigneur va vous utiliser et il va faire de grandes choses avec vous. Puis là, il y a des gens qui vont se convertir, mais ils vont aller où pour l'enseignement? Fait que c'est pour ça que le site web existe, que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce site web-là. Dans la section partage biblique, il y a une très grande recommandation de commencer avec la position du croyant. Qu'est-ce qu'on a reçu dans le ciel quand on a accepté de Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, mais surtout quand on a accepté que Jésus-Christ règne, hein, quand on étudie la parole. La plupart des hommes n'ont pas voulu que Jésus-Christ règne sur leur vie. Mais l'enfant de Dieu va accepter que Jésus règne sur sa vie. Alors, il faut connaître la position qu'on reçoit quand on reçoit la vie éternelle. C'est un cadeau, premièrement, mais en même temps, il faut connaître c'est quoi la position qu'on a reçue dans le ciel. Je vous le dis, vous ne croirez pas ça, là. Vous ne croirez pas ça, comment c'est glorieux, comment Dieu il nous voit quand on a accepté son Fils. Allez voir ça, ça va en peine, ça s'appelle... la position du croyant, c'est 68 vérités positionnelles. Ensuite, vous amenez les gens là pour aller prendre conscience de ce qu'ils ont reçu. Ensuite, vous pouvez les amener dans la série Marcher selon l'Esprit. Et donc, là, ils vont être équipés. Ils vont être équipés pour développer leur relation personnelle avec Dieu. Puis après ça, il y a plein de partages, là. Nous autres, on a fait plein de partages en famille pour eux parce qu'on aimait étudier la parole de Dieu. S'il y en a qui vous interpellent, ils sont là pour ça. Mais là, c'est important pour un nouveau croyant puis pour les serviteurs de toujours être dans la parole, de toujours s'exposer à la parole de Dieu parce qu'on va se faire aspirer. Donc, c'était notre petite parenthèse de gouvernement humain. Maintenant, on n'est plus pogné là-dedans, mais on veut juste expliquer comment est-ce que c'est arrangé aujourd'hui par rapport à ça. Si on prend l'exemple de juge, hein, on va commencer à regarder ça. Ça disait que c'était le peuple de Médian, hein? Quand Gédéon, vous irez lire ça, là, on lira pas ensemble, vous irez le lire avant de commencer cette partie-là, là, c'est Juges 7. Et puis, c'est l'histoire de Gédéon avec ses 32 000 soldats qui s'en va se battre contre le peuple de Madian, les Madianites. Les Madianites, c'était un peuple nomade, et puis, ils venaient de l'Est, ils étaient souvent associés à d'autres, les Amalécites qu'ils appellent. Puis ils envahissaient Israël pour piller les récoltes puis le bétail. Ils étaient très, très, très nombreux. Ils ont asservi Israël pendant 7 ans avant que Dieu ne suscite Gédéon pour les libérer. On disait de ce peuple-là qu'il était innombrable, comme des sauterelles. Il était tellement nombreux que tu n'étais pas capable de les compter. Ça nous donne comme une armée immense, puis des chameaux sans nombre, comme le sable du bord de la mer, imaginez. C'est pour vous dire comment est-ce que le peuple c'était gros. Comment ça avait l'air gros par la vue, là, ce qu'il y avait là. Mais tu sais, l'Éternel, la première affaire qu'il fait, il demande à Gédéon, il demande à ceux qui ont peur. Puis envoie-les chez eux. Fait que ceux qui ont peur, là, c'est les croyants qui ont peur de parler pour Jésus aujourd'hui. Ils parlent jamais dans leurs entourages parce qu'ils savent qu'ils vont se faire battre. Excusez l'expression, là. Fait que ils en parlent quand ils vont à l'église, là, mais quand ils sortent de l'église, ils ont dit, on n'a plus personne qui veut rien savoir, puis nous autres non plus. Fait que ces 22 000-là sont repartis. Il en restait 10 000. Fait que le Seigneur, il fallait descendre à la source. Je te dirais exactement qu'elle prend. Fait que ça me dit à moi, savez-vous quoi? Ça me dit à moi, arrête de chercher, là. Tu sais, moi, quand j'avais entendu le Seigneur me dire, appelle les serviteurs. Ben, moi, j'ai tout appelé les gens qu'on avait dans notre petite église. Mais il y en a même qui m'ont dit, c'était pas une église. Puis il y en a qui m'ont dit, ben, moi, je vais plus à l'église, puis si je retourne, je sais pas encore laquelle, ça veut dire, je retournerai pas avec toi. Fait que vous voyez à peu près comment ça a été reçu. Puis il y en a d'autres qui m'envoient des vidéos puis des prêches de d'autres pasteurs pour me dire que je m'envoie moi-même, puis que je suis séduit, puis que je suis pas enseignable, puis fait que sont pas conscients qu'ils sont des artisans du diable. Mais moi je les laisse faire là parce que je sais que le Seigneur sont pleins et parfaits. Et sauf que j'ai été obligé de les mettre de côté parce qu'ils ont répondu non tout le monde à l'appel. Donc Dieu va susciter il va susciter lui-même ses serviteurs. Puis moi, je pense que parce qu'il n'y a plus grand monde qui veulent se lever dans l'Église, il va prendre des inconvertis, puis il va les convertir, puis il va en faire ses serviteurs, puis il va lui donner une gloire éternelle. Fait que ça va être dur pour ceux qui sont dans l'Église depuis 20, 30, 40 ans, là, puis qui pensent qu'ils sont parfaits. Là. Ça va être dur pour eux autres, ça. Mais vous savez que dans les Églises, il y en a encore, ça dit 1 sur 100 à peu près, dans le monde chrétien aujourd'hui. Donc, il choisit, il a dit 10 000, puis là, il dit, bon, prends juste ceux là qui boivent debout. Fait que c'est ceux qui ont resté vigilants pour Dieu, même avec le gouvernement humain. Fait qu'ils restent, puis ils regardent à l'horizon, puis ils ont à cœur de servir le Seigneur, tu sais. Ils sont pas nonchalants ou endormis ou à quatre pattes, là. Ils sont debout, puis ils sont très vigilants, puis ils sont prêts. Donc, Gédéon est un homme de Dieu, hein, parce que... À part la vue, on aurait tous parti à courir avec un peuple tellement nombreux en avant. Mais Dieu, Gédéon savait que Dieu était avec lui. Fait que... Donc, pour fortifier Gédéon, il a permis d'entendre dans le camp ennemi qu'il avait envoyé un songe au camp ennemi. Puis ça les a fait bien peur, tu sais, parce que tout le monde a dit « Hey, c'est Gédéon qui s'en vient pour nous battre. » Fait que il avait mis cette peur-là déjà dans le camp. Fait que quand Gédéon a suivi exactement les préceptes que Dieu lui avait donnés, ben c'est sûr que ça a marché parce que déjà le Seigneur les avait visités avec un songe, puis il avait déjà effrayé. Puis et quand vous irez voir l'histoire, là, puis quand les gens ont suivi les instructions. Ben, ça dit que ils se sont levés l'épée un contre l'autre, ça s'est mis à la grosse panique, puis ils sont partis. Ils sont même partis après eux autres pour aller chercher les deux chefs, puis ils ont ramené les deux têtes à Gédéon. C'est juste pour vous dire. Il était 300, là. Ce n'est pas beaucoup, les amis, de 300, là. Je sais pas comment, c'était innombrable qu'ils disaient, là, qu'il y avait là. Fait qu'il faut faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. On y va pas avec nos forces. C'est sûr que si on y va avec nos forces, je vous le dis, vous ne t'offrez pas deux jours. Faut pas y aller avec nos forces. Faut y aller avec la puissance de Dieu. Dieu nous demande quoi? Il me dit, il veut que tu dises oui. Premièrement, que tu dises oui, que tu sois prêt à t'engager pour les 49 jours. Après ça, il dit, ben, après ça, faut que tu ailles dans le champ de la moisson. Fait que, c'est tout. Pas d'autre chose que ça. Faut pas faire d'autre chose que ça, parce qu'on peut pas rien faire, nous autres, avec la chair. La chair est déchue devant Dieu, puis la chair est ennemie de Dieu. Fait que quand tu essaies de faire quelque chose avec ta chair devant Dieu, ben, c'est pas, pour Dieu, c'est pas quelque chose qui est valable, c'est les œuvres de la chair, puis ça va passer dans le feu. Alors, si tu veux que Dieu soit avec toi, ben, il faut que tu t'attendes à Dieu. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Dans ces jours-là, il faut que tu sois dans la parole tout le temps, puis il faut que tu sois animé par l'Esprit Saint. C'est très important. Il ne faut pas que tu marches sur tes propres, on dit sur ton propre gaz, là, parce que tu vas te brûler vite. Mais si tu marches avec la puissance de Dieu, puis tu te laisses guider par Dieu, bien là, tu peux te reposer parce que tu dis c'est Dieu qui le fait. Puis les miracles, c'est pas toi qui les fais, c'est Dieu qui les fait aussi. Puis Dieu, il va utiliser les miracles pour que les gens t'écoutent. C'est après, ouais, on va voir ça tantôt, là. C'est après avoir fait un miracle que là, on va dire, ben, le royaume des cieux s'est approché de vous, tu sais. Puis là, les gens vont, ah, wow, tu sais, là, ils vont écouter, puis ils vont être prêts, puis là, les cœurs vont être ouverts, puis là, tu sais, ça va être le temps d'amener le plan du salut. Fait qu'il faut connaître le plan du salut, les amis. Hein? Si on va travailler sur le terrain, il faut connaître le plan du salut. Donc, le Seigneur, il donne, on va voir un peu l'exemple que le Seigneur nous donne dans Gédéon, parce que c'est très puissant quand on prend le temps de regarder toutes les images qu'il y a dedans. La fameuse cruche, hein, la cruche. Mais sa cruche, là, cette cruche-là, elle représente notre vase de terre à nous autres. Tu sais, souvent, on va le voir dans les Écritures, on dit qu'on est des vases de terre façonnés par Dieu lui-même. Alors, quand que Gédéon lui a dit « brisez votre cruche », là, ben, c'est ça que ça veut dire pour nous autres ici. C'est laisse briser ta cruche parce que si tu gardes ta cruche, l'esprit est étouffé à l'intérieur de la cruche, dans le vase, tu sais. Puis l'esprit peut pas se manifester. Alors, c'est un peu ça l'idée. Puis un coup qu'on va avoir brisé notre vase de terre, ben là, l'esprit va se manifester. Puis la trompette va se mettre à sonner. Hein? Tu vas te mettre à parler pour Dieu. Tu te mettras pas à parler de Dieu. Tu vas te mettre à parler pour Dieu. Alors, Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est exactement ça qu'il nous demande pour les 49 prochains jours. Matthieu 16, 24, ça dit la même chose. 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Jérémie 18, 6, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Fait que c'est un peu ça qu'il nous dit, le Seigneur. Ben, laisse-moi faire. Mais si tu ne me laisses pas faire, ben, je ne pourrais pas te façonner. 2 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. C'est ça qu'on aimerait pour nos vies, être des vases d'honneur. Jean 2, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez l'image ici que Jean nous donne? C'est un peu la mort à soi-même. Le bris du vase de... Tu sais, quand on dit briser son vase de terre, c'est mourir à soi-même. C'est prendre la croix du Seigneur, puis dire, OK, Seigneur, je te suis. Let's go, on y va. Là, il y a deux très, très belles images pour terminer à propos des vases. Bon, on n'aura pas fini, mais presque. Mais c'est tellement beau, c'est Marc 14, 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur du grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Moi, ça me bénissait parce que quand on brise notre vase, c'est comme un parfum pour Jésus qui dit « Ah, mon enfant, tu sais. » Et puis, psaume 51, 17 ou 51, 19, ça dépend de la version. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et contrit. » Amen. Alors, on continue, puis on dit que Quand que le Seigneur il va être capable de libérer son Saint-Esprit, regardez ce que la Bible dit. C'est un peu ça que qui est arrivé là, dans Juges. Hébreux 12, 29, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Deutéronome 4, 24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Les ennemis ont vu en la lumière des flambeaux la gloire de Dieu. Ça va être la même chose pour vous. Quand vos vases vont être brisés, quand nos vases sont brisés, je parle de vous, mais c'est moi aussi, là. Inquiétez-vous pas, il a brisé le vase en masse la dernière semaine. Je pense que j'ai compté ça. On peut se raconter ça entre nous autres, là, mais je vous raconterai pas ça ici. Mais oui, il y en a eu des larmes. Je vous le dis qu'il y en a eu des larmes. Mais maintenant, mon Seigneur m'a fortifié. Puis là, ben moi, je me suis levé pour lui. Puis j'y ai donné ça. J'ai dit, garde, Seigneur, je te donne tout ça. Puis je te fais confiance. C'est pour le reste. Donc, les ennemis ont vu la gloire de Dieu. Ils ont pris. C'est ça qui les a vraiment énervés. Dans Philippiens 2, 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » C'est à ça que Dieu nous appelle, briller comme des flambeaux. Amen. Donc, la synthèse de ça, là, si on fait un petit tour vite, on a notre base de terre, le brisement, les trompettes et le flambeau. Tout ça, ben moi, je trouvais que le verset de Jean faisait bien, là, Jean 3:30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Il y a trop de Mario en Mario. Puis il n'y a pas assez de Jésus. Alors, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je m'excuse, j'accroche une fois la table, et ça doit être épouvantable, là. Mon micro, je suis pas content du tout de ce micro-là, puis j'ai payé ça un prix de fou. Donc, dans ce récit-là, Gédéon était connecté évidemment avec son Seigneur, fait que moi, ça me donne, je dis pas que je suis Gédéon, là, mais ça me dit un exemple que si je veux avoir la directive de Dieu, ben, il faut que je suive les directives tout le temps qu'il me donne, puis il faut pas que ça soit les miennes. Quand j'ai appelé les serviteurs, moi je pensais que c'était le monde de mon église, c'était pas ça pantoute. Comme je vous ai expliqué pourquoi. C'est des gens qui lapent, qui boivent debout. Puis c'est lui qui va les susciter. Fait que j'ai pas besoin de m'inquiéter avec ça. Puis au pire, il va y aller tout seul, pas de problème avec ça. Donc, les serviteurs, avez-vous remarqué, ils exécutent exactement ce que Gédéon dit. Fait que ça va être un peu l'équivalent que je vais vous dire aujourd'hui. Les instructions là, que je vais vous donner, ça va être très important que vous les suiviez à la lettre. Je sais pas comment ça va durer le partage en passant, là, mais c'est important qu'on fasse cette formation-là. Donc, dans les prochains, les deux images que le Seigneur m'a données, c'est à propos des serviteurs. Premièrement, un, c'est quel serviteur qui va être là dans la moisson de l'arrière-saison. Ensuite, le Seigneur m'a amené dans Ruth. Et ça a été une révélation pour moi incroyable d'aller lire Ruth. Fait que là, vous allez peser sur stop. Maintenant, c'est le temps d'aller lire Ruth, parce que c'est juste quatre chapitres, là. C'est pas long à lire. Allez lire ça, après ça, on va continuer ensemble. Comme je vous ai expliqué, là, c'est la période, ça va être la période de 49 jours après la Pâque juive. C'est là que devrait commencer le grand réveil de la fin. Hein? Donc, pour l'année 2026, ça commence le 2 avril. C'est à ce moment-là que on entame la période de 7 fois 7. Donc, c'est 7 semaines de 7 jours, les 49 jours qui mènent à la Shavuot, qui est l'équivalent de la Pentecôte aujourd'hui. Donc, cette année, cette période sera une période d'éveil annoncé, l'arrière-saison, les prémices agitées devant l'Éternel. Alors, nous allons référer à l'histoire de Boaz et de Ruth. Nous allons nous inspirer du déroulement de la fête comme modèle pour le glanage de la moisson de l'Éternel jusqu'au 21 mai. Ensuite, on verra. Je vous dirai la suite quand on va se rencontrer. Et on devrait se raconter ce qu'on a vécu, puis on va se raconter ce que Dieu a fait. Puis après ça, je vais vous donner la deuxième partie qui est très importante aussi, qui nous mène jusqu'à la Pentecôte. Donc, excusez-là. Dans le modèle, chaque étape de glanage de Ruth dans le champ de Boaz devient une image de l'Église, l'épouse des nations. Ruth, c'était une Moabite, hein? Saviez-vous ça? Ruth, c'était l'équivalent de nous autres, là. C'était une étrangère dans le peuple de Dieu. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est l'image de l'Église qui recueille les grains avant la fin de la saison. Les moments clés de ce récit qui marquent les 50 jours, c'est l'arrivée, le début de l'omer. On appelle ça l'omer. Quand Ruth arrive dans le champ, ça dit qu'elle arrive à Bethléem. Puis là, si vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que le jour que vous allez décider, ben si vous écoutez ça, c'est parce que vous l'avez déjà décidé, c'est que là, le Seigneur est en train de dire, là, tu arrives dans la famille, mon ami. Tu arrives dans la famille sainte. Tu arrives à Bethléem. Bethléem, c'est le peuple juif, hein, vous comprenez pas ça, mais là, tu as accès au peuple élu. Tu t'en vas travailler avec le peuple élu, là. Tu es comme considéré comme travaillant pour le peuple élu. C'est pour ça que c'est important de prendre le pouls de ça. Donc, ça veut dire que Dieu a accepté Ruth dans son royaume, même si elle n'était pas juive. Voyez-vous pourquoi ça nous représente? Donc, ça nous dit, Ruth, qu'elle glane avec persévérance du matin au soir. Et ça, c'est le modèle pour nous autres. Ramasse les grains, puis elle travaille. Elle, tout ce qu'elle fait, elle a dit oui. Bien, premièrement, le Seigneur l'a amené là, comme il vient de faire pour vous. Et deuxièmement, elle a dit, bon, ben, je vais travailler du matin jusqu'au soir. Ça, ça va être notre moisson à nous autres, la récolte des âmes. Ruth réserve tout son temps pour Dieu pendant la moisson, pendant ses 49 jours, pour marcher dans les œuvres préparées d'avance. Donc, à la fin de la moisson, on voit qu'elle va aller se coucher au pied de Boaz. C'est l'étape de l'intimité, on va en reparler plus tard. Donc, la période de glanage se termine après, puis ça se trouve être la chavoute qu'on appelle. Chavouot, là, c'est Chavouot, la Pentecôte, l'équivalent de la Pentecôte. Donc, on va revoir ces étapes-là. On n'ira pas de l'autre côté de la Pentecôte, parce que ça va être le deuxième enseignement qu'on va voir ensemble. Si je suis pas tout seul, là, moi, je l'ai déjà, l'enseignement, mais si Dieu me demandait, si Dieu me met à cœur de l'écrire et puis de faire un partage, ça doit être parce qu'on va avoir une deuxième partie, mais je vais vous le donner de vive voix à cette fête-là. Amen? All right. Bon, l'entrée dans le champ, le réveil de la faim. Hein? Le moment, Ruth 2 à 3, elle arrive par hasard sous la direction divine, évidemment, dans le champ de Boaz. Vous savez où c'est qui, Boaz? Boaz, c'est la représentation de Jésus-Christ. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Puis je vais vous en donner une meilleure que ça dans l'autre partie qu'on va avoir. Là. Moi, ça m'a jeté à terre, ce que le Seigneur m'a montré. Ça m'a jeté à terre, carrément. Donc, c'est le début de la période du 2 avril. L'Église entre dans une conscience aiguë de la moisson. C'est l'éveil. On ne glane plus n'importe où, mais on glane spécifiquement dans le champ du Rédempteur où qui nous dit de glaner. All right? La rencontre, la protection. Là, Boaz arrive de Bethléem. Il remarque Ruth, puis il lui ordonne, il dit, va pas dans un autre champ. Reste avec mes servantes. Ça veut dire qu'il m'accepte. La séparation qui était entre nous deux. Là, Boaz, il dit, viens. Viens, je vais voir avec mes servantes. Les serviteurs de la fin des temps se détournent du système du monde pour se nourrir uniquement de la parole. C'est ça que ça veut dire. Il dit, viens dans mon champ, puis reste avec mes servantes. Va pas dans le monde, là. Donc, les gerbes, là, Boaz s'est même arrangé pour donner la provision du réveil pour nous autres. Il a dit, je vais vous laisser des gerbes, là. Fait que on peut voir ça dans Ruth 2, verset 15-16. Boaz donne cet ordre secret à ses moissonneurs. Laissez-la glaner même entre les gerbes. Et même vous ôterez pour elle des javelles de paquets. Et vous les laisserez afin qu'elle les ramasse. Vous voyez? Seigneur, il a prévu. Il a juste dit, si tu veux venir, ben, je vais te bénir. Je vais te bénir, puis tu vas être béni éternellement à cause de ça. Tu vas régner, hein? La parole dit que tu vas régner sur ce que tu as ramassé. Sacrificateur puis des rois, c'est ça que la parole dit. Donc, c'est l'arrière-saison, là où le glanage habituel est difficile, ramasser grain par grain, souvent avec pleurs. Ça dit qu'on va y aller en pleurant. Hein? Parce que ce qui va nous faire pleurer, ce sera pas que... Ça va être qu'on qu'on voit l'endurcissement des hommes qui ne veulent pas se tourner vers notre Seigneur. Nous autres, on aime notre Seigneur, évidemment. Si vous écoutez ça, c'est parce que vous aimez le Seigneur. Puis vous avez le goût de le servir, puis ça va nous faire de la peine de voir ça. Que les gens, comment les gens vont se détourner, puis ils veulent plus rien savoir de ça. Mais avec les miracles, vous allez voir que ça va changer. Dieu va nous donner une provision pour ça. C'est l'arrière-saison. C'est le glanage habituel est difficile, ramasser ça, comme je vous disais, mais Christ fait tomber les bénédictions directement sur le chemin de route. Christ qui est Boaz. Donc, moi, est-ce que vous faire, vous croirez pas ça non plus, là? Mais dans Ruth, ça dit que Ruth, elle va manger Boaz pendant qu'elle glane. Vous pensez à ça? C'est vrai ce que je vous dis là. Si vous acceptez ça, là, le Seigneur va être très, très, très proche de vous. Si vous restez vraiment concentré, là, vous ne vous laissez pas déconcentrer par du bruit quelconque que le diable vous fait ou votre famille fait. Si vous restez concentré, là, vous serez béni comme vous n'avez jamais été béni parce que le Seigneur va être très, très proche de vous autres. Puis si vous lui demandez des explications, vous allez dans la parole, vous allez voir, il va tout vous révéler. Puis c'est moi, je suis vraiment béni. Là. Présentement, je vous le dis, je resterai dans cette situation-là pour toujours. Donc, elle mange le grain rôti avec Boaz jusqu'à être rassasiée. On voit ça dans Ruth 2,14. Donc, l'Église se nourrit d'une nourriture solide, le grain rôti par le feu de l'Esprit. Au milieu du travail, c'est la force nécessaire pour tenir jusqu'au 21 mai. Ruth glane jusqu'à la fin de la saison des orges et du froment. Le froment, c'était le blé. Et puis, le blé était récolté en dernier. Fait que ça, on peut penser que le blé, en tout cas, ça c'était plus vers la fin des 49 jours. Donc, tu sais, les premiers 49 jours, c'était l'orge qui représentait l'humanité. Le blé, c'était les prémices. Donc, le blé, ce sont les enfants qui ont pas dit oui encore, mais à cause de nous, ils vont dire oui. Fait que ça, ce sont les prémices qu'on parle dans, on voit ça dans Ruth 2:23. On va se rencontrer à la fête de Lag Bahomer. Puis on va se raconter ça. On va se faire une petite fête, là. Puis on va se raconter ça. Je dis non, je ferai une fête avec le Seigneur. C'est pas grave. C'est ça. Feu de joie, lumière spirituelle. Puis là, je vais vous donner la suite de l'enseignement que j'ai reçu pour les derniers jours de l'Omer. Pensez pas qu'il y a rien l'autre bord de ça. Vous allez tomber. Comme je disais à une personne que j'ai parlé hier, vous allez tomber en bas de votre chaise, vous le dis, moi. Donc, si vous lisez ça, c'est que vous avez compris. Je sais pas si je dois le dire. Je le dirai pas. Mais il s'en vient quelque chose. Après les 49 jours, là, si vous allumez un peu, là, il va arriver quelque chose le 50e jour. Là. À la Pentecôte. On en reparlera. Ça fait penser, vous savez que les 49 jours, ça a été établi, ça, la fête de l'Homère, d'où ça part? C'est quand ils ont sorti d'Égypte. Ça représente leur sortie d'Égypte, quand Dieu les a fait entrer dans le pays de la promesse. C'est pour ça qu'ils font ça depuis ce temps-là. Fait que c'est un peu la représentation de nous autres. Aussi, c'est la même chose. C'est les gens, ici, ils vont sortir de l'Égypte, du monde, là. Comprenez ce que je veux dire? Le monde, présentement, ça représente l'Égypte. Puis là, le Seigneur, en nous envoyant, il va faire sortir ses prémices de l'Égypte. Ça va être la pluie de la fin de la saison, là, qui appelle, c'est le grand réveil. Donc, l'année 2026, ça commence le soir jeudi, le 2 avril. C'est à ce moment-là qu'après le premier jour de la Pâque juive, là, qui est le 1er avril, les 7 semaines commence, qui fait 40 jours, qui mène à la Shavuot ou Chevut, ou je sais pas comment ça se prononce. Donc, Boaz intervient comme le Rédempteur, Goël, pour ceux les amateurs de plus, donc Goël est l'équivalent, Boaz est l'équivalent de Goël comme le Rédempteur. C'est l'intervention du Messie pour réclamer son héritage. C'est un parallèle puissant. La fête des prémices, C'est là qu'il balançait une gerbe. Le Seigneur lui faisait balancer une gerbe de blé devant l'Éternel. Ils font ça depuis 2000 ans, là. Depuis plus que 2000 ans même. Le Seigneur lui a fait faire ça. Ça, c'est en préfiguration de nous autres. C'est incroyable, hein? La loi plus loin aussi. Pourquoi qu'on est inclus là-dedans avec les pains? Les pains à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte, il y a deux pains, hein, qui sont offerts, puis c'est la seule fois qu'ils ont le droit de mettre du levain dans les pains. Le levain, ça représente le péché. Mais ça aussi, c'est nous autres. C'est parce que là, nous autres, on vient d'être inclus dans le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'ils mettent du levain dans les pains, puis ils mettent les deux en avant de l'Éternel. Ça veut dire que maintenant, les deux sont devant Dieu et sont son peuple. Amen? OK. Donc, c'est ça, c'est la fête de la résurrection. Le but de la fête des prémices, c'est fait qu'une gerbe d'orge qu'on agite devant l'Éternel. C'est l'étape où Ruth arrive à Bethléem. Pour l'Église, c'est le rappel du fondement, la nouvelle vie en Christ. C'est le début de l'éveil, là où on commence à glaner avec humilité. Donc, les instructions. Les instructions. Maintenant, nous autres, là, il faut être sûr qu'on suit les instructions. Hein? Fait que qu'est-ce qu'on a eu comme instruction? On a ça dans Luc 10, verset 1 à 12. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni sac, ni bourse, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Regardez bien après. N'allez pas de maison en maison. Vous voyez, c'est le contraire d'évangélisation des gens d'aujourd'hui. Le Seigneur dit, va pas de maison en maison. Fais pas ça. Attendez, je recommence. Mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous en recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Regardez, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Tu rentres pas en disant, le royaume de Dieu s'est approché de vous, là. Tu dis ça juste après que Dieu s'est manifesté. Soit par que tu as chassé un démon, soit que tu as guéri un malade. Pas toi, mais que le Saint-Esprit t'a utilisé parce que à toutes les fois, il nous dit, quand tu vas voir ça, dis-toi après que tu es un serviteur inutile. Parce que tu n'as rien fait là-dedans. Tu as juste écouté ce que le Seigneur voulait t'envoyer, puis c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses avoir ces récompenses. Alors, verset 10, mais dans quelque ville que vous entriez où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Le Seigneur, il dit, même enlève la poussière que tu as après tes pieds, là. C'est pas personne qui a voulu se convertir là. Regardez ce qu'il dit. Cependant, sachez que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Bon. Alors, si on décortique ça par étapes. Premièrement, la première étape, là, on a un problème parce qu'on n'est pas gros, mais le Seigneur va pourvoir. La première étape, c'est 70, ou je pense qu'il y a une place, c'est marqué 72, là. La première étape, c'est qu'il envoya deux à deux devant lui. Donc, quand il a dit ça, le Seigneur, là, c'est que lui, après qu'il a envoyé les disciples, lui, il passait en arrière d'eux autres. Puis, il allait dans les mêmes villes. Fait que c'est un peu la même préfiguration pour nous autres. Il nous envoie. Comprenez? Donc, deux par deux. Première chose. Ne pas juger personne. Matthieu 9, verset 12-13. Pas juger personne. Peu d'ouvriers, priez le maître. Il faut qu'il envoie des ouvriers. Ça, c'est ça qu'il nous dit de faire. Il nous dit, Vous êtes, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Là, il dit, ne portez ni bosse, ni sac, ni souliers. Regardez, là. Ne saluez personne en chemin. Ferme ta boîte. Es-tu capable de fermer ta boîte? Puis, tu la rouvriras juste quand que le Seigneur te dira de l'ouvrir. Si tu rouvres ta boîte en allant, tu t'en mets, à pavoisser à tout le monde, ça, là, ben là, c'est le diable qui va te sauter dessus. Parce que là, tu vas attirer l'attention. Le Seigneur, il nous donne les choses à faire. Va-t'en, puis fais directement ce que je te dis de faire. Fais pas d'autre chose que ça. Là, il dit, quand tu rentres à quelque part, dis que la paix soit sur cette maison. Puis là, s'ils reçoivent, là, il dit, demeurez dans cette maison. S'ils te reçoivent pas, il dit, ta paix va venir sur toi, continue. Mais eux autres, il fallait que ce soit offert à eux autres. Donc, si tu rentres dans cette maison-là, probablement, ça dit ici, guérissez les malades. Probablement quelqu'un de malade, là. Probablement quelqu'un, il va t'utiliser, puis là, probablement qu'il va faire des guérisons, puis là, le monde, ils vont être très, très ouverts à ce que tu vas dire. Mais oublie jamais de dire que tu es un serviteur inutile. Oublie jamais de dire ça. Je vous le dis, là, ça va être difficile de pas attraper la grosse tête avec ça, là. Il va falloir faire très attention pour rester humble. Puis de suivre vraiment les instructions du Saint-Esprit. Donc, il dit, après que tu as guéri le malade, là, tu vas lui dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Puis là, tu vas lui faire le plan du salut. C'est là que tu vas lui proposer peut-être d'aller sur le site web. Puis tu vas, quand tu vas lui faire le plan du salut, puis tu vas lui faire accepter que Jésus règne sur leur vie, bien là, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu les imposes les mains. Ouais. Faut que tu les imposes les mains, puis tu les baptises au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, ça, c'est les instructions qu'il nous donne. Il dit, secoue la poussière. Si, dans une ville, il y a personne qui a voulu te recevoir, ben, enlève même la poussière de cette ville-là après tes pieds, là. Parce que, je te le dis qu'elle va être jugée très sévèrement. Donc, la moisson de l'arrière-saison, c'est comme une question de vie ou mort, là. Le timing est serré. Mais si l'ouvrier commence à compter ses grains, là, puis là, le salaire, puis la reconnaissance, puis les bénédictions, puis il regarde plus la maturité du grain, puis de l'approche de l'époux, bien ça, c'est le piège du mercenaire. Tu sais, il devient un mercenaire. Parce que là, vous savez, avec les natures déchues qu'on a, là, tu sais, faut faire très, très attention. Alors, Ruth n'est pas allée dans le champ de Boaz pour devenir riche, hein? Ou pour avoir les 6 mesures d'orge. Elle est alliée par fidélité, par amour pour Naomi, sa source spirituelle, puis Naomi, c'est l'équivalent de du peuple juif. Moi, à un moment donné, tu sais, j'ai dit au Seigneur, ben là, tu sais, à un moment donné, on voit que plus tard, il va avoir un enfant, puis il va être mis sur les genoux de Naomi. Ben, là, moi, tu sais, j'étudie pas mal ce que le peuple juif a fait, là. Comme tricher le calendrier pour pas que ça pointe sur le Messie, puis en tout cas. Fait que là, je trouvais ça ordinaire, mais le Seigneur, il m'a rappelé, c'est parce que moi, je viens d'être là, là. Ouh! Pardon, Seigneur. Alors, le Seigneur est aligné de David. On va voir ça plus loin. Donc, Jésus oppose souvent le bon berger au mercenaire. Le mercenaire travaille pour un salaire, la récompense. Quand le loup vient, l'épreuve du battage, il va partir à courir. Parce qu'il est pas animé par l'esprit. Il va se faire battre par le diable. Il s'enfuit car il n'est pas lié au troupeau par l'amour. Le serviteur de l'épouse travaille par amour pour l'époux. La seule véritable récompense, c'est la présence de Boaz. C'est d'être dans la présence de Boaz, pardon. L'huile, ça s'achète pas, hein? L'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le piège des vierges folles. Ils ont pensé que l'onction, l'huile, était quelque chose qu'on pouvait obtenir en suivant les directions pastorales. Moi, je fais tout ce que le pasteur m'a dit. Je suis tout suivi les cours. Puis, tu comprends? Sa valeur est dans ce qu'elle a fait. Elle est pas dans sa relation. Elle est pas dans ce que Dieu a fait pour elle. Fait qu'elle, elle s'attribue une valeur par rapport à ça. Mais c'est complètement... C'est un peu l'histoire des vierges folles, là. Donc, la motivation pour nous autres, ça doit être toujours le maître de la moisson. Puis, tu sais, dans Luc 17:10, ce que je vous disais, c'est quand vous avez fait ces choses, tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Vous irez voir ça dans Luc 17:10. Encore ici, le serviteur de l'arrière-saison est celui qui est simplement heureux d'être dans le champ. Quand la pluie tombe, la pluie de l'arrière-saison, on pourrait débattre de ça, là. Il parle souvent de cette pluie-là dans les Écritures qu'il va avoir à la fin des temps. C'est que Dieu va envoyer sa parole par nous autres, avec les miracles, tout ça, puis là, vous allez voir, ça va marcher, là. Mais, tu sais, je me demande à quel point ça va marcher, parce que si on prend Noé, il n'y avait pas beaucoup de monde, là, qui est embarqué dans l'arche, là. Puis si on prend Sodome et Gomorre, je pense que Lot, puis c'est sa famille, puis sa femme a été changée en statut de sel, je pense. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que, tu sais, peut-être faut pas s'attendre, tu sais, mais c'est pas dans la quantité, là, c'est dans la... Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être certain, d'être dirigé par l'Esprit, puis tu acceptes ce qu'il met en avant de toi, puis c'est tout. C'est comme ça, il a dit, t'as même pas besoin de faire rien, c'est tout moi qui va faire. C'est pour ça qu'il dit dans la parabole des mines, si vous avez pas écouté la parabole des mines, dans le deuxième partage de la fin du temps des nations, je parle de la parabole des mines, évidemment que le Seigneur m'a donné, puis ça parle des serviteurs de la fin. Fait que c'est important. Si vous allez voir ça, vous allez voir, c'est intéressant. Ah, et puis Matthieu, dans 9, 12, 13, quand je vous disais de pas juger personne, mais Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Mais c'est les malades. Allez et apprenez ce que ça signifie. Je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes. Mais je suis venu appeler les pécheurs. On n'ira pas évangéliser dans l'église, là. Hein? Alors, on a fait le tour pas mal de ça. Je suis en train de voir s'il y a des choses qu'on pourrait rajouter. Certainement qu'on pourrait rajouter. Ouais, on a dit baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Puis là, il dit quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Quand on vous livrera, c'est quand on vous confrontera. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Mais vous, c'est encore là, là. C'est pas toi qui parles, c'est le Saint-Esprit. Fait que toi, là, essaye de mourir, si t'es capable. Essaye de mourir pour laisser travailler Dieu, puis tu vas voir que ça va bien aller. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Matthieu 10, 19, 20. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit les Juifs, les nations, tout le monde. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Les dernières instructions avant l'ascension. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça repose pas sur nous, là. C'est la décision de la personne. La personne a dit non, elle a dit non. C'est beau. Passe à un autre. C'est ça que ça veut dire. C'est une taupe avec elle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Vous voyez, il y a l'imposition des mains là-dedans. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travailla avec eux, et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur, il va nous confirmer avec les miracles. Vous croyez pas, hein? Vous allez voir. Donc, le dernier passage est tellement beau. Il est tellement beau, ce passage-là, quand le Seigneur m'a donné ça. Puis, on a eu, évidemment, une bonne instruction avec ça. Donc, c'est Cantique des Cantiques. Vous savez comment le Seigneur nous aime? Vous allez voir. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10 à 16. Mon bien-aimé parle et me dit. Tu vois? Mon bien-aimé parle et me dit. C'est le Seigneur. Le Seigneur, il dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent le parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui se tient dans les fentes des rochers, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il sait qu'on est caché, là. Tout le monde a peur. On est tous cachés dans les craques et dans les rochers, puis on veut plus y aller, là, tu sais, parce que tout le monde vraiment nous ridiculise au bas quand on parle du Seigneur. Mais là, il dit, lui, il dit, viens, 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 il dit, tu vas voir qu'on va avoir du plaisir ensemble. Là, il nous dit, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le Seigneur, il nous aime au bout, tu sais. On n'a pas idée de ça, comment le Seigneur nous aime. On va le savoir quand on arrive l'autre bord. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. C'est beau, hein? Ah, mais moi, c'est sûr que là, quand je suis arrivé aux renards, tu sais, j'ai dit, bon Seigneur, qu'est-ce que c'est les renards? Il faut, quand le Seigneur nous donne des images comme ça, il faut aller voir dans l'Antiquité. Comme là, il parle des renards, mais il parle de la vigne. Fait que je suis allé voir comment les renards détruisent les vignes. Premièrement, la destruction. Hein, on va voir ce que ça fait des renards. Et puis, les renards, en passant, c'est les petits péchés cachés qu'on a. Tu sais, des petits péchés mignons qu'on dit, oh, bah, c'est pas trop grave, là. Tu sais, pas si grave, là. Mais là, tu t'en vas témoigner pour le Seigneur. Puis là, le Seigneur, il dit, si t'as des petits péchés cachés, là, tu serais mieux les régler parce que le diable va s'en servir. C'est ça que ça veut dire. On va le voir, là, il va nous donner des pépites là-dessus. Contrairement aux sangliers qui dévastent tout d'un coup, le renard est plus subtil. Les renards aiment creuser leur tanière sous les racines des vignes. En faisant ça, ils exposent les racines à l'air. Et ce qui fait dépérir le pied de la vigne sans que cela se voit tout de suite à la surface. Comprenez la patente, là? Ton petit renard là, que t'as caché, là, il est en dessous de la vigne, hein? N'inquiète-toi pas. Il va faire le dommage. Donc, cela représente le problème de fond, l'amertume cachée, secret, le manque d'intégrité, whatever. C'est vous autres qui le savez, là. Moi, j'en avais des petits renards, puis je les ai réglés. Moi aussi, j'en avais pareil comme tout le monde. Qui ronge la base d'une vie ou d'une relation pendant que l'apparence semble encore verte. Le renard, le texte du cantique précise que nos vignes sont en fleurs et s'il détruit la fleur, ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de fruits. Pour la saison, il n'y aura pas de raisins. Il n'y aura pas de fruits parce qu'il a détruit les fleurs. Donc, c'est l'attaque contre le potentiel. Ce sont des petites distractions, des mauvaises habitudes qui tuent un projet ou une résolution spirituelle dès son commencement. Avant même qu'elle ait pu prouver sa valeur. Fait qu'il... Autrement dit, même, je suis allé voir ça, ça a l'air qu'il mange les fleurs, mais il mange les bourgeons. Les bourgeons sont sucrés. Il aime ça. Fait qu'il mange... Lui, ça mange n'importe quoi, là. Un renard, en passant. Il mange ce qu'il y a. Fait que... Là, quand c'est le temps des bourgeons, bien, il mange les bourgeons. Ça a l'air que les fleurs, il mange les fleurs aussi. Puis quand il y a des raisins, ça a l'air qu'il mange les raisins aussi. Fait qu'il mange la récolte. Tu comprends? Lui, il est là pour manger la récolte. Tes petits renards, là, sont là pour manger ta récolte. Fait que, règle ça, ces petits renards-là, que t'as, là. Ça dit que, ouais, ils ont des goûts pour les tendres bourgeons. La petite taille. Pourquoi préciser les petits renards, hein? Le Seigneur, il dit pas les gros renards. Les petits renards, c'est ceux qu'on pense pas grave. Un gros animal, il peut pas passer par tous les trous de la clôture. Une vigne, bien gardée. Le petit renard, lui, il se glisse partout. On fait attention aux grands péchés, le vol, le meurtre, tu sais, les commandements, mais on laisse entrer les petits renards. Ça peut être du commérage, de l'agacement, de la paresse. Dieu vous montrera. Demandez à Dieu qu'il vous le montre. Puis abandonnez-les. C'est tout. Le texte nous avertit, ce sont des petites intrusions qui finissent par ravager toute la récolte. La ruse. Le renard est très rusé. Le renard, c'est un animal rusé par l'excellence. Il agit souvent de nuit. Ou se cache dans les feuillages. Le mal ne se présente pas toujours comme méchant, hein? Alors moi, ça me paraît quand je dis ça, parce que c'est vraiment une belle image que le Seigneur nous donne. Il sait bien que ça fait longtemps qu'on est dans le monde, là, tu sais, puis qu'on attend. Il se présente souvent comme quelque chose d'inoffensif. Même, peut-être, même quelque chose de drôle. Tu sais, pour nous tromper sur sa capacité de destruction. En résumé, dans la Bible, chasser les renards de la vigne, c'est faire la police de son propre cœur et donner toute la place à Dieu, refuser de laisser s'installer des habitudes qui semblent insignifiantes, mais qui, à terme, stérilisent notre vie. Le renard n'attend pas que le fruit soit là pour nuire. Il s'attaque à la promesse, les bourgeons. Dès que le cycle des bourgeons, il consomme aussi le raisin. Fait qu'il consomme au début puis consomme à la fin. Donc, le dernier réveil de l'arrière-saison, les amis, ça commence le 2 avril. Là, je vous ai donné un bon enseignement. Et puis, je vous conseille d'aller en prière avec ça. Donc, on commence le 2, suivant la Pâque juive. Puis, on se rencontre le 5 mai pour se raconter ce que Dieu a fait à travers nos vies. Et puis, un feu de camp, bouffe. Puis là, je vais vous donner la deuxième partie. Et puis, ça va être très béni. Moi, je suis très béni de tout ça. C'est sûr que j'ai peur comme vous autres. Je tremble. Moi, je tremble tous les jours devant la puissance de Dieu puis devant ce que Dieu me donne. C'est sûr que je suis. Ça me jette par terre. Je tremble, mais je continue. J'ai dit, Seigneur, oui, je vais y aller. Envoie-moi, je vais y aller. S'il faut, j'y aille tout seul, je vais y aller tout seul. Mais je vais y aller. Alors, c'est un peu des gens comme ça qui disent, qui sont décidés comme ça. Et puis, j'espère que vous êtes de ceux-là. J'espère qu'on va pouvoir se raconter ça, puis marcher. Ça va être, c'est sûr qu'on va développer des liens spéciaux ensemble. C'est sûr qu'on va travailler ensemble, mais c'est sûr qu'on va être ensemble éternellement. Là, tu sais, c'est comme notre nouvelle famille là, que Dieu est en train de nous montrer. Regarde, c'est lui ton frère, puis regarde, c'est l'autre. Fait que ça va être bien spécial, tu sais. Alors, que Dieu vous bénisse avant demain. Je vais prier pour les gens qui vont vouloir entrer dans cette aventure-là avec moi. Puis que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il marche devant vous dans tout ce que vous allez faire, et puis qu'il puisse vous utiliser pour son plan, pour sa gloire, dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen.